consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Le mot de la fin. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture d'Aurélien Landemaine.
Comment décrire ce temps? De quels mots se servir? Où piocher ses lettres pour composer ces mots? De quelle ponctuation user pour les assembler, donner un sens? Et pour obtenir quoi au final? Que risquent-elles de dire ces phrases qui ne soient forcément incomplets, bancales, malvenues, engoncées, ne traduisant pas, cotes mal taillées? Une interjection, un mot bateau, une formule toute faite ne serait-il pas suffisant pour l'époque? Nous quittons les ombres pour cette aube que je n'ai pas vue venir. Me voici poussé à l'inaction, obligé de rien avec ces lumières rasantes qui déjà me minent. Dès qu'elles ont touché mon iris, elles ont commencé leur sape. Alors, le temps est-il vraiment aux phrases? Elles qui furent si confites et pendant si longtemps, stéréotypées de caractères mobiles pour des impressions sur papier, les mêmes sentences formulées de manière 100 fois différente mais qui disaient toutes la même chose. L'espoir, l'avenir, le combat, l'union. Ne pas renoncer, pas maintenant, bientôt, déjà, et puis soudain. Tout est fini. Tout est confus. Dans ces romans que je lisais, bien cachés sous les frondaisons, l'auteur construisait un récit, début, milieu, fin. Pour les nouvelles, la fin surprend souvent. Elle laisse sur un tremblé. Dans les romans, c'est différent. La fin est presque inéluctable. On la sent venir, parfois on l'impatiente. On la redoute aussi. On l'envisage parfois. On se dit qu'on aurait pu écrire autre chose pour... À la réflexion... Conclure avec l'auteur que rien d'autre ne pouvait être écrit que cela. Hier, ils ont filé. Ordre, contre-ordre, emballement et emballage rapide de bureau, documents en pagaille dont certaines pages flottent dans le caniveau, égarés, oubliés. Camion de transport de croupes, la chiasse au cul. Automitrailleuse, véhicule léger. De toutes sortes ces véhicules dont je serais bien incapable de dire à quoi ils servent précisément. Et puis ce chef d'orchestre que personne ne connaît et qui soudain fait irruption. Autant ! Et en quelques minutes, la symphonie est jouée. La place est vide, les immeubles sont vides, confusion de moteurs, de cris, quelques coups de feu, des corps qui traînent, vides jetés dans le Rhône, et puis plus rien. Le silence. Je m'étais tellement habitué à leur présence que la combattre était un quotidien. Comme un rhume des foins qui jamais ne passe, une raison de se lever, un refus de se coucher. Non, jamais se coucher devant cela. Pas de dimanche ni de congé non plus. Ce matin dans ma cave, je m'apprêtais encore, mais je... Les signes avant-coureurs auraient dû m'alerter. Avion, radio, parachutage, boum ! Et sur le sol ondulé, agitation inhabituelle des cloportes, ceux de ce bord-ci du Rhin, moins nombreux, au visage veule. Ceux de l'autre rive surtout, cette pagaille de bottes à la langue hurlée. Ce fut comme un frémissement de printemps en plein été, une herbe folle qui soudain se mettait à danser à la Saint-Guy. La pitié disait, répétait encore, comme l'institutrice qui s'use face à l'élève cramponné au poil, mon bonnet d'âne enfoncé sur mes oreilles, je refusais d'entendre. La peur de gagner te fera perdre, chuchote le sportif. Mais j'ai jamais eu peur. Et puis ce matin, le grand romancier qui soudain renonce. Il laisse sa plume sur le bord de sa table, refuse de conclure dans les gaz des pots d'échappement qui lentement se dissipent, révélant à ma vue, à mon nez, un vide. Mais où est la chute ? Je me rappelle bien de cette question, je l'ai répétée 10 fois, 100 fois dans ma cave, comme un fou qui cherche désespérément quelque chose qu'il n'a pas perdu, qu'il n'a même jamais eu en sa possession. Je me pensais légitime à connaître la fin, et même avant les autres. Je faisais partie du roman. Celle-ci ou une autre de fin, peu importe, j'exigeais juste cette rambarde sur laquelle poser mes mains. Et puis sauter par-dessus, enfin libre, repu, pour aller me faire voir ailleurs. Pourquoi a-t-on volé ma fin ? J'ai bien tenté de me rassurer. C'est juste le premier tome. La suite va venir et elle contiendra forcément cette fin que tu espères tant. On ne laisse pas en plan tout de même. Comment va-t-il nous éclairer, l'auteur ? Je l'imaginais déjà, ouvrant la porte en grand, un air taquin sur le visage, satisfait de sa farce. Mais non, je ne pouvais pas vous laisser en suspens, vous n'auriez pas tenu, on ne fait pas ça à un lecteur. Allez, je poursuis. Mais rien. Je l'attends encore. Ça fait 3 ans que je vis dans cette cave. Seul d'une solitude à peine trompée par des rendez-vous nocturnes, des mots en douce à mâcher prudemment, des présences furtives de commandes toujours urgentes, à faire pour la veille. Je suis seul le plus souvent et je m'en porte bien. J'ai endossé mon rôle, personnage dans ce roman, cette pièce que je n'écris pas. C'est pas moi qui écris. Je ne sais toujours pas qui écrit, mais rappelez-vous, je l'attends. Il va venir. L'auteur. Ma seule compagnie est mécanique. D'une électricité aléatoire ou de presse à bois quand tout va mal. Elle ne commet que des bruits étouffés, grincements parfois, cliquetis de ferraille graissée, offset, linotype, remontée là après son transport en pièces détachées. J'en connais chaque rouage, mieux qu'un médecin son patient. Elle vomit des tracts, plusieurs milliers à l'heure, des journaux clandestins. Elle engueule tous les types de papier, mais pour défaut de qualité, de loupe à l'œil aguerri devant tromper les cloportes, c'est moi qui m'y colle, à l'ancienne. Je m'y épuise même, à la lueur d'une bougie qui me fait voir 36 chandelles parfois, même qu'une fois, je me suis endormi dessus. Ce matin, je glisse cet œil par le soupirail. J'ai toujours aimé ce mot, soupirail. Je m'étais promis de le faire soupirer quand tout cela serait fini. Alors lentement, je lui décolle son papier de rétine. Ce composite crasseux et huilé qui le recouvrait et dont la fonction était de me masquer au regard. Lui aussi a joué son rôle, réverbérant le monde extérieur pour mieux en dissimuler l'intérieur, se couvrant d'insectes crevés, secs à présent, et d'araignées tissant des toiles inutiles, se tenant dans les coins. Pas même lassé de cette chasse sans gibier. La vitre à présent découverte méritait mieux qu'un coup de manche pour retrouver sa vertu. Mes doigts salis d'encre, doigts de fée, c'est comme ça qu'on me surnomme, ajoute de la confusion sur le paysage urbain qui se présente là, que je redécouvre pour l'occasion. Je suis monté sur un escabeau, mon souffle vient se coller sur la vitre. Je pense à avant. J'aimerais redessiner comme je le faisais gamin, encre sympathique qui bientôt oubliera que je vécus là. Mais il fait trop chaud en ce mois d'août, alors je plonge mon pouce dans un tampon encreur et d'un geste précis de palmipède dans la vase, signe de mon empreinte en haut et à droite. Une lumière âcre s'en vient baigner ma cave. En rien elle n'est claire, ni de ce qui s'est passé ici, ni de ce qui va advenir. Au dehors, je perçois des cris. Il semble que la joie soit de retour. Elle si absente, de dancing fermé, d'anniversaire de croûte de pain trempée dans du lait, de fête nationale sans nation, la revoilà. Et elle gueule, putain, qu'est-ce qu'elle gueule ? Et si c'était ça la fin du roman ? Une longue litanie d'ombre, de peine, de remugle, d'aigreur dissoute dans le miel qui soudain coule à flot, comme un pot bouché depuis trop longtemps. Alors, sucrée, topinambour et chicorée qu'on envoie valdinguer, bientôt le veau gras, une boutanche de vin bouché et fraise des bois.
Thank you.
T'as une tête ! Il m'a dit, René, t'as une tête à avoir bouffé des guêpes ! Il faudra bien que je me risque au dehors, voir de quoi ce monde retourné retourne. 8 jours déjà que les cloportes ont foutu le camp. Et puis les libérateurs sont arrivés quoi ? 2 jours après ? À ce départ froid et dont l'organisation au cordeau m'avait apparu bien branlante, a succédé une liesse de carnaval. Comme le cirque, les forains qui passent dans les villages une fois l'an, avec leur cortège d'acrobates et de cracheurs de feu qui font la joie des enfants et des fous. Ils ne sont pas restés bien longtemps, le temps d'un baiser, d'un bal populaire pavoisé, de discours empruntés, 1000 fois redits. Ils sont partis, attirés par les lumières de l'incendie, plus à l'est. Nous laissant seuls, et moi plus que les autres. Mais je n'arrive toujours pas à trouver la fin de ce foutu roman dont on nous a imposé la lecture pendant toutes ces années. Mais que fait l'auteur, merde ? Mes provisions sont aussi épuisées que mon cerveau qui s'épuise à gratter, à chercher encore. Personne n'est venu dans la cave. Venir, non plus en douce, mais en clair, visage déployé, demande à haute voix, bilan scandé au coin des rues. Satisfaction, c'est un peu comme ça que je la voyais la fin. Ouais, je me rappelle. L'engoncement qui explose comme une grenade trop mûre. Une constipation troquant son visage écarlate contre l'air apaisé d'un éphèbe dans un tableau de la Renaissance. Remisez le tout, tout ça. Les feuilles imprimées que personne n'est venu chercher, les ramettes volées, assoupies dans les armoires. Démonter l'imprimerie, remettre dans l'ordre alphabétique les caractères mobiles dispersés sur la table, sur le sol, à coups de pied. Coup de main rageuse qui m'a fait valdinguer tout ça dans la cave. Je pensais à une archive. Quelque chose de simple. Pas un musée, non. Je sais déjà que les gens vont vite passer à autre chose. Il s'agira d'oublier. Mais déballé, remballé. Comme à la fin d'une foire d'empoigne. Mais l'oubli, c'est pas la fin. Comment peut-on conclure un roman sur de l'oubli ? On aurait l'impression que l'auteur avait quelque chose à écrire, mais que par lassitude ou manque d'intérêt, il laisse tout ça en plan. Démerdez-vous, à quelqu'un d'autre de finir. Moi j'ai oublié ce que je voulais dire et puis tout ça n'a plus lieu d'être. Et pourtant je vis, moi. Je vis dans un lieu, cette cave dont je ne peux sortir sans en savoir plus. Plus et fin. Hier, je suis sorti. J'ai posé mes pas dans le monde retourné. Dès que j'ai poussé la porte, la lumière m'a brûlé les yeux. Ce soleil éclatant. J'ai chaussé des lunettes noires qui m'ont fait paraître pour ce que je n'étais pas. « On peut voir tes yeux ?» que m'a dit un type qui sortait précipitamment d'une traction au pneu crissant. Ses copains, la gueule torve, sourire en coin, faisaient craquer leurs phalanges sur ses talons, moteur allumé. J'ai dû retirer mes lunettes. Mon teint de cire et ma maigreur leur ont fait peur. Tout de suite, ils ont pensé maladie et ils se sont reculés. Puis ils sont repartis dans un écran de fumée, sans m'en dire plus. Hey, « Hé, si tu cherches la fin, j'ai un riz de veau qui mijote !» que m'a soufflé le garçon du bistrot. À ce comptoir, j'ai compté les rires gras. Premier lieu de vie, au coin de la rue, la petite cloche de la porte d'entrée. Le zinc, moustache, bedaine, torchon sur l'épaule, déjà dans le monde d'après. Et puis, causerie dans le fond. Il y en a qui disent... Eh, moi je vous le dis, hein. Et sur le devant aussi. Oh, ils ont bien fait de... Et pareil que machin... Que sais-je encore. Récapitulation effective au rêver, achat de légendes pour pas cher à la brocante des ombres, réécriture qui me sème dans le doute. La fin. Pas encore trouvé. Effacé ici d'un coup d'éponge rapide sur le bois clair de la mémoire collective. J'ai achevé ma tasse, j'ignore encore à ce jour ce qu'elle contenait. Et puis j'ai marché dans les rues. Longtemps. Plus aucune trace des cloportes. Ceux-là avaient une idée précise de la fin, mais le temps leur a manqué pour l'écrire. La force aussi. Leur absence me laisse presque croire qu'ils n'ont jamais existé, que tout ceci n'a été qu'un brouillon jeté à la corbeille. Pas de manuscrit, donc pas de livre, pas de roman, donc pas de fin. Dans les discussions de ménagères auxquelles je me mêlais parfois, on parlait des autres, les libérateurs et puis du général aussi, de la guerre qui bientôt... des prisonniers qu'on espérait. Ce qui se disait dans les alcôves s'étalait à présent au grand jour, dans les queues, devant les boucheries, les boulangeries, où les pénuries faisaient toujours sentir leur présence de trépignements, de râles, de protestations, de ragots. Rien n'avait vraiment changé. À l'angle, un minot vendait un journal à la criée. Il me restait quelques pièces, j'ai acheté un exemplaire dont la lecture m'a amusé. Pour la première fois depuis... J'ai souri. Le journaliste employait les mêmes mots dont j'usais moi dans ma cave. J'avais l'impression de lire des choses que je savais déjà, tant j'ai pu imprimer d'exemplaires de nos journaux clandestins, de nos tracts. Mais je me suis obstiné, j'ai lu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Peut-être que celui-ci me donnerait des indications, un indice qui me permettrait d'y voir plus clair. Mais il causait de réunions sur des sommets, de pays lointains aux noms imprononçables, de chiffres, dont l'addition toujours fausse, ne connaîtrait jamais de somme. Une feuille de chou, ai-je entendu dans mon dos, même pas bon à faire une soupe. Immédiatement, j'ai reconnu la voix de René. Il était là, tellement le même et si différent. Bah qu'est-ce que t'as foutu? Je suis repassé à la cave, j'ai tapé 10 fois, mais t'as pas répondu. Tu dormais ou quoi? René était hilar. Il avait laissé pousser sa moustache, se tenait dans un bleu de chauffe, à peine sali, et dans sa main pendait sa gamelle. « Tu comprends, toi, René? Je cherche la fin à tout ça. Il faut bien l'écrire, tout de même. » René m'a regardé d'un air inquiet, puis il a ri, m'a envoyé une bourrade sur l'épaule. « La fin, mon vieux, mais la fin, on s'en fout! Moi, je m'en fous. J'ai rempilé chez Mercier. Tu sais bien, la mécanique, ça a toujours été mon truc. Tu ferais bien d'en faire autant. » Puis il a répondu à l'appel de ses copains d'atelier de l'autre côté de la rue. « Les cloportes sont barrées, mon pote. Le lendemain de leur départ, t'avais plus lieu d'être. Moi non plus, d'ailleurs. Les autres non plus. Alors te mets pas martel. » Puis il a traversé la rue et m'a lancé que je ferais bien de me trouver une poule. « Alors c'est comme ça. Ça se finit comme ça. Un jour, un mois, un an. Tu vis caché de tous, même de toi. Tu portes beau dans les rues alors que tu es fils de prolétaire. Tu remises dans une cave, su pour des faux papiers, de vrais journaux. Bricole pour que ça tienne encore, encore un peu. La fin est pour bientôt. On annonce que ça débarque. Un flux d'une force, mon pote, que ça va tout embarquer. Mais on renvoie l'annonce à Marie. Une fois encore, ce sera pour plus tard. L'espoir fait vivre, ça je le sais bien. Et toi, ben, t'es petit, on te demande de poursuivre. L'espoir, tu vois. Après la plage, le bocage, et puis la grande plaine. Et bientôt, oui, bientôt, le fleuve sera là, Rhône, Saône et Beaujolais. Tenir, tenir encore, imprime, typographe, mets-toi ça dans le crâne. Et puis, plus rien. Un matin, plus rien. Plus d'obligations, plus de réticence, plus de retenue. Tu rames encore et ta barque vient s'échouer sur la plage où bientôt tu relèves la tête. Ahuri, tu es seul à bord. Et on te demande ce que tu fous là. C'est ce que je lui ai dit à la poule. Juste avant de me quitter, René m'avait donné un bifton. « Va t'amuser !» qui m'a dit. « Rue Laurencin, demande Odette !» Elle est là, Odette, allongée sur le lit qui soupire en pensant à cette galéjade ratée, ses jambes en l'air repliées sous son corps. J'ai pas pu. Alors j'ai parlé. Elle m'a juste dit « T'as 20 minutes, mon chou, après faudra casquer !» En venant jusque-là, j'ai fait un détour par mon ancienne adresse, près de la gare. Quelqu'un s'était servi chez moi, et pas qu'un peu. Faut dire que tout le monde avait glosé à mon sujet. Embauché chez les cloportes, il vit de riches heures. Maquisard planqué dans la montagne. Ou bien au vert dans une campagne. Il mange gras tous les jours, celui-là. Sur le même ton que... Pareil qu'on a retrouvé son corps dans un terrain vague. La gardienne a ouvert ses mirettes. J'ai cru qu'elle allait défaillir. Elle m'a filé une chaîne et un cadenas pour bloquer ma porte. Derrière les huisses, alors que je montais l'escalier, je sentais bien que ça furetait. De quelle fin vont-ils se nourrir, tout cela ? En sortant sur la rue, j'ai vu des gars sortir de la gare. Les premiers prisonniers qui rentraient. Encore une fois, ça récapitulait. Partir, revenir. Entre les deux, la mort avec laquelle tu danses et que faut faire gaffe à pas lui monter sur les pieds. Paraît qu'il y a eu des balles. T'en étais ? Moi, je suis resté dans ma cave. Rien vu de tout ça. Un bal comme conclusion, ça te semble crédible à toi ? Odette a soupiré, m'a parlé de femme tondue. Elle y avait échappé de peu. Un type qu'elle avait hébergé et qui avait plaidé pour elle. Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait une fin ? M'a-t-elle demandé en bâillant. Pareil qu'aux colonies, ça bouge. Tu vas voir qu'ils vont remettre ça. On s'est revus avec Odette. J'aime bien sa philosophie de la vie. Avec sa tête de gerboise, elle a toujours l'air surpris des matins frais. Les gerboises n'ont pas le nez qui voit plus loin et surtout pas celui de Pinocchio. Elle est sincère et elle ne s'inquiète pas du demain. Pas comme moi, qui ai repris une vie dans un trafic au ralenti. Au ralenti ? Qu'il m'a dit, René. Mais dans quel monde tu vis ? T'as goûté les blondes américaines ? Le Coca-Cola ? J'ai un passeur qui va me faire venir des autos d'Amérique. Je vais monter mon garage. René en dit toujours trop et je ne parle pas si loin. Je ne suis pas retourné à la cave. Je la laisse aux archéologues du futur. Ou aux ferrailleurs. J'occupe mon appartement à temps plein à présent. J'ai fait changer ma porte d'entrée. La concierge m'a dit qu'il s'en était passé de belle pendant mon absence. Je lui ai répondu que c'était moche. Mais c'est pas tant l'avant que le présent auquel je cherche toujours une fin. Une fin sans fin. Une recherche du temps fixé que je n'arrive toujours pas à saisir. Comme cette photo qu'on développe. Le papier tremble depuis des semaines dans le révélateur et l'image n'apparaît toujours pas. Je voulais pas que ça se finisse comme ça, mais je dois reconnaître que je n'avais jamais envisagé de fin. La fin se confondait avec les moyens. Mais passé l'étourdissement, il devait se produire quelque chose quand même. Je crois que les autres, tous ceux du réseau qui ont repris une vie normale, loin des ombres mais pas dans la lumière, ne se croisent que de loin en loin. La fin comme un délitement, une croisée des chemins. René est le seul qui soit resté par là. De l'expression « ancien combattant », il ne conserve que le mot « battant ». Comme un pavillon en haut de son mât, il flotte haut, voit plus loin, et il rit. Autour de moi, la foule m'aspire, indifférente. Je ne rappelle jamais ce que j'ai fait, d'autres en ont fait plus que moi, certains y ont perdu des dents. Et puis ça agace, et puis tout le monde s'en fout, on pense au quotidien et à l'avenir, qui sont un peu la même chose. Je reste bloqué sur l'avant. Pas le passé, juste ce point entre le passé et ce moment où tout s'est arrêté pour faire place à autre chose. Chaque matin, je refuse de renoncer, je refuse d'avancer. L'air a changé de composition, on le boit mieux. Les visages aussi ont changé d'expression, ils ne veulent plus s'entendre dire. Seule la concierge attend son mari, prisonnier dans un camp qu'elle m'a dit. Mon petit monde tout rabougri des caves a disparu. Il me semblait tellement immense pourtant. Quand tout a commencé, je n'étais pas grand-chose. Employé, commis, serveur, petit boulot, pas vraiment suivi. Mais bon élève, je savais lire, écrire aussi, et sans faute que t'as une tête de premier communiant. Quand je me regarde aujourd'hui, je me trouve l'air d'un commis voyageur qui n'a jamais trouvé sa gare. Plus tard, je suis devenu porteur d'eau, puis de valise, coupeur de citron à la mi-temps, petit rapporteur dans le creux des oreilles, des oreillers. Et puis la cave. Je postule, j'ai 10 doigts, pas d'attache, on m'envisage, je sais tourner ma langue, je disparais. Entré par un terrain vague sur lequel je pisse, je fume la nuit venue, lit de camp, vivre à portée régulièrement. Je ne me plains pas, de toute façon, il n'y a pas de syndicat. Je n'étais pas grand-chose en y entrant dans la cave. Je ne suis guère plus en sortant. Foin d'honneur que je fuis. Avoine de curé sur mes doigts, l'encre était de bonne qualité, mais on me reproche toujours mes doigts sales, même si j'ai les mains propres. Redevenir typographe ? C'était même pas mon métier. J'ai appris sur le tas, sous le mètre 80 de la cave. Un univers à ma mesure. À ta démesure, qu'elle m'a dit Odette en m'embrassant. Depuis moi, elle pense raccrocher le tapin. M'a parlé d'un garni, d'un nid, pour nous deux. Et ça te dirait pas d'ouvrir une boutique ? Une boutique de quoi ? Que je lui ai répondu. De souvenirs ? Elle a pouffé, m'a dit qu'il serait temps d'arrêter de pisser plus haut que j'avais le cul. Au fond, je suis un peu comme elle. Moi aussi j'ai vendu mon cul. Ma cliente me semblait plus juste, plus respectable, mais au final, elle m'a fait cocu en ne me livrant pas la fin de l'histoire. Maintenant, je me rappelle, oui, je me rappelle. Quand les cloches se sont mises à sonner à toute volée, les cloportes étaient déjà sur la grande route. Ça bruissait de partout, et puis un type que je ne connaissais pas est entré comme un arlequin dans mon théâtre, ma cave, et m'a lancé tout joyeux que c'était fini. Et il est parti en sautillant. À cause de la lumière, je n'ai pas vu son visage. Peut-être l'ai-je rêvé ? René m'a dit qu'il ignorait qui ça pouvait bien être. Puis il m'a conseillé de mener une enquête. J'ai sorti un papier pour noter des noms, pas des pseudos, des vrais noms, pour remonter à la source. René m'a balancé des patronymes. Si je me rappelle bien, lui, c'était... Charles Gollet. Oui, c'est ça, un grand gars. Et puis attends, il y avait aussi ce type-là, au visage dur. Joseph Sataline. Et j'y repense, cet autre. Avec son drôle d'accent, là. Frank Roosevelt. Quand j'ai compris qu'il se foutait de moi, il a éclaté de rire, a fait de ma feuille une boulette qu'il a posée sur son nez en me disant qu'il n'était qu'une otarie et que c'était moi qui payais l'apéro. Mais la faim, mon cœur, la faim, elle est multiple, comme les gens. Tous ceux qui nous entourent, et ceux d'ailleurs aussi. Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait une faim uniforme ? La même faim pour tout le monde ? D'ailleurs, un uniforme, t'en as jamais porté, toi. Et puis, à la guerre, les uniformes, c'est fait pour se distinguer, pour que tu ne te trompes pas de camp. Si on rajoute ça à ta garde-robe, ça en fait un paquet de faim possible. Ah, c'est ce que j'aime chez Odette. Elle ne conclut pas. En se promenant à mon bras l'autre jour, elle m'a amené rue Servian. Une librairie qui est à vendre. Elle m'a dit qu'elle avait des économies de filles de la rue et un petit héritage de filles de paysans, mais que c'était le même argent. D'un coup de menton, elle m'a montré la vitrine. Des livres en pagaille. Et le proprio, un petit vieux, ancien client, qui lui laissait la priorité pour l'achat, mais fallait se décider vite. Et puis là, mon chou, des fins, t'en auras autant que tu voudras.